Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Dans cette histoire, vous allez passer par toutes les couleurs, je vous préviens. Il s'agit de l'enquête sur l'assassinat de Stefan Dietrich en 1994, près de Belfort. Il a fallu 21 ans pour arrêter l'assassin et 25 ans pour le juger. Et entre-temps, on s'est perdu dans des dizaines de fausses pistes, dont une qui était finalement pas si fausse que ça. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Pain, Christophe Ondelat.
Vous connaissez Belfort ? Tous les ans, en juillet, la ville organise un grand festival, les Eurokéennes. On est en 1994 et cette année, c'était un bon cru. ZZ Top, Björk, Jamiroquai et les Rita Mitsuko étaient là. Totale réussite. Et voilà, on est le 5 juillet, le festival s'est terminé hier, et au commissariat, les policiers sont sur les rotules. Quant au standard, un inconnu appelle.
Je vous appelle pour vous dire que j'ai trouvé un corps, un jeune homme, au Bois Joli. Voilà, je voulais juste vous prévenir.
Le Bois Joli ? Le Bois Joli, c'est un bois à la périphérie de Belfort. Les flics foncent immédiatement sur place.
Ici ! J'ai trouvé !
Le corps est à l'orée du bois. Un jeune homme entre 20 et 25 ans, en caleçon, la chemise grande ouverte.
Ouais, bah il a été poignardé, hein, ce gamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 coups de couteau. Bah dis donc, on n'y est pas allé de main morte, hein. Et puis alors, regarde, sa chemise est intacte. Donc on peut envisager que les coups de couteau aient été donnés chemise ouverte.
Du coup, les flics pensent tout de suite à un crime sexuel.
Bon, pas de papier d'identité. Rien pour identifier le gamin.
Quelques heures plus tard, une femme se présente au commissariat.
Bonjour. Voilà, je m'appelle Roland Dietrich. Je voudrais vous signaler la disparition de mon fils. Il a disparu de la maison depuis hier soir. Et il a quel âge, votre fils, madame ? Il a 24 ans. Il s'appelle Stefan Dietrich. 24 ans. Je suppose que vous connaissez la loi, madame, hein ? Dans l'immédiat, on peut rien faire. Il est majeur, et malheureusement, il fait ce qu'il veut. Je me permets d'insister, monsieur, parce que c'est pas normal, Stéphane devait partir en vacances dans le sud ce matin avec un de ses copains. Ses vacances avec son copain Christophe, il en parlait depuis longtemps. Et puis je vois pas pourquoi il aurait préparé son sac et tout pour finalement pas rentrer. Depuis quand est-ce que vous n'avez pas de nouvelles de lui, madame ? Depuis hier soir, vers 8h, son copain Christophe avec lequel il devait partir l'a appelé. Et après le dîner, vers 10h, il est venu le chercher. Et depuis, plus de nouvelles. Bien, madame, je vous le répète, hein, ce que je vous ai déjà dit, pour l'instant, on ne peut rien faire du tout. Hein. S'il ne rentre pas dans quelques jours, vous revenez nous voir, et puis on l'inscrira au fichier des personnes disparues. Au cas où. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment désolé, on peut rien faire. Oui, mais quand même, quand il est parti hier soir, il nous a dit à moi et à mon mari qu'il revenait dans un quart d'heure. Il n'est pas revenu, et je trouve ça vraiment inquiétant. Non. Il pleuvait, il n'a pas pris de parapluie. Il n'a même pas pris les clés de la maison.
Écoutez, madame, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, asseyez-vous là, on viendra vous chercher, d'accord ? Et Roland Dietrich s'installe donc dans la salle d'attente. Et elle patiente. Et elle voit les policiers passer devant elle dans un sens et dans l'autre. Ils ont l'air tendus. Et elle les entend parler, des bribes de conversation. Ils parlent d'un corps retrouvé dans un bois. Et soudain, venu d'un bureau, Roland entend cette phrase qui la cloue à son siège.
La mère, elle est là. Hein.
Elle se dit, c'est moi, la mère ? Pourvu que ce soit pas de moi dont il parle.
Madame ?
Madame, venez. On a retrouvé le corps d'un jeune homme. C'est peut-être votre fils. Hein ? Il faudrait venir à la morgue pour l'identifier avec nous. D'accord ? Elle est pétrifiée. On l'emmène à la morgue, on ouvre un tiroir, on en tire un brancard, et on lui présente le corps du jeune homme poignardé au bois joli. Et c'est son fils. C'est Stéphane. Il est mort. Dans la famille Dietrich, personne ne voit qui a pu tuer Stéphane. Pourquoi est-il parti comme ça, la veille de son départ en vacances? Comment a-t-il pu se retrouver au bois joli? Est-ce qu'il a croisé une bande de voyous? Lui qui était si gentil. Pourquoi? Pourquoi un crime aussi barbare? En attendant de répondre à ces questions, une information judiciaire pour meurtre est ouverte et un juge d'instruction est désigné. Et d'entrée, le juge a une piste. Le bois joli. Ce n'est pas un bois où on va ramasser des champignons, enfin pas que. C'est connu dans la région. C'est un lieu de drague homosexuelle. Mieux que ça, c'est un lieu où on consomme sur place. Et la tenue dans laquelle on a retrouvé Stéphane, en slibard et la chemise ouverte, suggère que peut-être il est allé là-bas pour se donner du plaisir. Et le fait que la chemise soit ouverte et qu'elle n'ait pas été percée par les coups de couteau semble indiquer qu'il était en pleine action, en train de faire l'amour avec un homme, quoi, dans ce sous-bois. À l'abri des regards. Est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre? Est-ce que c'est le type avec lequel il était en train de baiser qui l'a tué? C'est une hypothèse sérieuse. Les policiers vont donc interroger la famille Dietrich. Messieurs, dames, d'abord une question un peu délicate. Est-ce que selon vous, votre fils était gay?
Stéphane? Gay? Oh, mais non, je suis sûr que non.
Comme vous le savez peut-être... Le bois joli est un lieu de rencontre homosexuelle.
Oh, mais Stéphane ne serait jamais allé dans un endroit pareil, enfin. On l'a tué ailleurs et on l'a mis là, c'est ce que je pense.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui, madame?
Ben, c'était un étudiant très, très travailleur, très sérieux. Il pensait qu'à ses études, il était major de son école de commerce. Et puis, il militait au RPR aussi. Voilà ce que je peux vous dire.
Les policiers vont aussi voir ses amis.
Ça colle pas du tout, Stéphane, dans ce bois. Vous savez, c'était un garçon un peu vieille France, d'accord? Pas très moderne, hein. Fallait voir comment il s'habillait, un peu comme un grand-père. Mais moi, je le vois pas aller batifoler au bois joli. Mais alors vraiment pas, hein.
Est-ce qu'à votre connaissance, il était gay?
Oh, ben non. Non, enfin, je pense pas. Bon, c'est vrai qu'il avait pas de copine. On a essayé de lui en présenter, ça a jamais marché, mais... Il disait tout le temps, mes études, il y a que ça qui compte, j'ai pas le temps, on verra plus tard. Il voulait faire les choses dans l'ordre, quoi. D'abord obtenir ses diplômes, et après il disait qu'il verrait pour se marier. Donc, selon vous, il n'était pas homosexuel?
Ben, non.
Il me l'aurait dit. Il était super proche, on se disait tout, c'est impossible, ou alors il a vraiment caché son jeu. Hein. Mais on l'aurait su de toute façon.
Bon, pourquoi ne pas les croire? Ils disent peut-être vrai. Peut-être que ce meurtre n'a aucun rapport avec ce lieu de drague. Et peut-être qu'il faut chercher ailleurs une autre piste. Stéphane est parti de chez ses parents vers 22h, en leur disant « J'ai rendez-vous avec mon ami Christophe. J'ai quelque chose à lui dire. » Pour connaître la suite, eh bien maintenant il faut l'entendre, ce Christophe. Les policiers le convoquent au commissariat.
Vous nous confirmez qu'hier soir, Stéphane Dietrich était avec vous?
Ouais. Ouais, je l'attendais devant chez lui, en voiture. Et ensuite il m'a dit qu'il fallait qu'il retire de l'argent au distributeur. Donc je l'ai amené à une banque.
Ça, c'est confirmé par son relevé bancaire. À 22h04, il a retiré 500 francs.
Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on est resté en parler dans la voiture. J'ai pas mal de problèmes en ce moment avec mon beau-père. Il est alcoolique et il est plutôt violent. Je veux plus vivre avec lui. C'est pour ça que je voulais lui parler. Je lui ai demandé si on pouvait décaler notre départ en vacances d'un jour ou deux, le temps que je m'organise.
D'accord. Et après?
Ben après, il m'a demandé si je pouvais le déposer à la fête foraine, au foratrie. Il m'a dit qu'il allait voir quelqu'un là-bas. Et donc, je l'ai déposé à la fête foraine.
Il était quelle heure?
22h30, à peu près.
Bien, merci, monsieur. On vous reconvoquera si nécessaire.
Voilà une nouvelle piste. La fête foraine. Est-ce que ça n'est pas là qu'il a fait une mauvaise rencontre? Parce que il ne manque pas de zozo pas fini dans les fêtes foraines, hein, de mecs bourrés, bagarreurs. Et si c'était une bagarre qui a mal tourné, et que le corps ait été déposé après dans le bois pour faire croire justement à un crime entre homosexuels? Ça se tient comme scénario. Même si les parents ont du mal à comprendre ce qu'il fichait à la fête foraine.
Oh, bah c'était pas du tout son genre. Je vois vraiment pas ce qu'il serait allé faire là-bas. Il détestait les manèges et tous ces trucs. Ça lui ressemble pas du tout, pas du tout, du tout.
Mystère. C'est alors qu'un nouveau coup de fil, anonyme, encore un, arrive au commissariat. Et cette fois, c'est une femme qui est en ligne.
Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais parler à un responsable de la police, s'il vous plaît. Voilà, je vous téléphone parce que... Bon, j'ai la conscience qui me travaille un peu. Parce que voilà, j'ai été témoin d'un acte étrange. J'ai un petit peu peur, c'est pour ça que je veux pas dire qui je suis. C'est au sujet du jeune homme qui s'est fait planter, comme on dit. Je voulais vous dire, c'est parti du foratrie.
Et là, elle raccroche. Dommage que cet appel soit anonyme. Mais la piste de la fête foraine se confirme. Les flics se disent... Il faut la retrouver, cette femme. Darda!
Dis, tu peux regarder d'où vient l'appel? Ok, je m'en encarte.
On est en 1994. Il n'y a pas encore Internet. Et donc, ça prend un peu de temps.
Bon, ça y est, j'ai la réponse. Elle a appelé d'une cabine. Une cabine de la fête foraine. Et mieux que ça. En allant sur place, j'ai pu identifier celle qui nous a appelé. C'est une foraine, elle tient un stand de tir.
Super, ça. Super. On y va? La dame est un peu dépitée que les flics l'aient retrouvée. Mais vous allez vite comprendre pourquoi.
Oh, j'ai un peu honte de le dire, mais... Voilà, je bois. Je suis alcoolique, quoi. Et alors je planque des bouteilles dans un bosquet qui est un peu à l'écart de mon stand. Et bon, j'y vais prendre quelques rasades dans la soirée. Et donc, vous me protégerez hein, si j'ai des problèmes. Et donc j'ai vu deux forains. Passer en courant, ils avaient tous les deux un couteau à la main. Et après, j'ai entendu un cri. Je me suis sauvé vers mon stand. Hein.
Et ces forains, vous les connaissez?
Oui, bien sûr. Mais m'en demandez pas plus, je peux pas. Hein. Bon, vous comprenez, mais renseignez-vous, vous les retrouverez.
Elle avait raison. Les policiers les identifient très vite. Ce sont deux forains qui tiennent un stand de jeu.
Dis, tu peux appeler le fichier?
Demande-leur s'ils sont connus, ces deux-là. Là encore, on est en 1994, et le fichier, ce sont des fiches cartonnées rangées dans des tiroirs. C'est moins rapide qu'aujourd'hui. Mais ça marche.
Bon, ça y est, j'ai un retour. Il y en a un qui est fiché, hein, violence à l'arme blanche, ça colle. Hein. On va le voir.
Trop tard, il vient de mourir. Il s'est suicidé. Mais il a laissé une lettre d'adieu à ses proches. Je lègue toutes mes affaires à mon frère et à ma sœur. Pardon de vous avoir fait ma dernière connerie. Connerie? Connerie? Mais de quoi parle-t-il? De son suicide? Ou du meurtre de Stéphane Dietrich? Mystère. Cela dit, il y a l'autre forain. Mais je préfère vous le dire tout de suite pour ne pas vous faire perdre votre temps. Elle était tentante, cette piste des forains. Mais elle ne mène à rien. Ils ne sont pas dans le coup. La foraine a dû forcer sur l'agneau. Eh ben voilà. Il n'y a plus de piste. Macache. Pot de zébi. Après l'été, en septembre, faute de mieux, les policiers décident de réentendre la dernière personne à avoir vu Stéphane Dietrich vivant, c'est-à-dire son pote Christophe. Et comme ils ont deux ou trois biscuits sous le coude, ils le collent en garde à vue. Au début, il leur ressort la même histoire.
Bah, comme je vous l'ai dit, je l'ai retrouvé devant chez lui vers 10h du soir. Et une demi-heure plus tard, je l'ai déposé à la fête foraine. Après, je sais pas ce qui s'est passé, moi.
D'accord. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait après ?
Après, je suis rentré chez ma petite amie. J'ai dormi là-bas.
C'est-à-dire que vous êtes arrivé chez elle, vous vous êtes couché, et vous avez dormi d'une traite jusqu'au lendemain matin.
Non, à un moment, j'avais besoin de décompresser, je suis allé marcher sur le bord du canal.
De décompresser de quoi, monsieur ?
Mes problèmes avec mon beau-père, tout ça.
Monsieur, on va se dire les choses. Nous nous sommes renseignés. Votre petite amie, comme vous dites, elle n'était pas là ce soir-là. Elle n'était pas à Belfort.
Ah bon ? Ah, peut-être que je me suis trompé, alors j'ai dû dormir chez mes parents.
Autre chose, monsieur. En analysant le relevé de votre carte de crédit, il apparaît que le lendemain du meurtre de votre ami Stéphane, vous êtes allé dans une station de lavage pour laver votre voiture. Pourquoi est-ce qu'il était urgent de laver votre voiture, monsieur ?
Je devais l'amener au garage pour la vidange, puisqu'on devait partir en vacances. Et comme je suis arrivé au garage en avance, j'en ai profité pour laver la caisse, quoi.
Honnêtement, ça tient debout. C'est assez courant que des gens qui partent en vacances fassent leur vidange et en profitent pour passer un petit coup de Karcher. Il n'a pas forcément nettoyé sa voiture pour effacer des traces du meurtre. Les policiers n'en tireront rien de plus. En attendant, l'enquête patine à nouveau, et ça dure 6 mois de plus. Et puis en mars, 8 mois après le meurtre, elle rebondit d'une manière assez étonnante. Les parents Dietrich sont chez eux, on sonne à la porte, ils ouvrent, et là, waouh, un jeune homme est devant eux, et ce jeune homme ressemble trait pour trait à Stéphane. On dirait son jumeau. C'est très troublant.
Bonjour, monsieur, dame. Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Dominique.
Et je pense que c'est pas votre fils qui voulait tuer. Je pense que c'est moi qui le voulais tuer. C'est en voyant la photo de votre fils dans le journal que j'ai compris. C'est moi qui voulais tuer. C'est pas lui. Et à cause de notre ressemblance, ils se sont trompés de cible, quoi. Mais qui ? C'est compliqué, je suis militant écologiste. Je milite pour préserver la qualité des eaux à Belfort et je m'intéresse en particulier au lac du Malsaucy. Et comme vous le savez sans doute, c'est dans ce coin que se tient ce fichu festival des Eurokéennes. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils bousillaient l'eau du lac et qu'il fallait qu'ils arrêtent, quoi. Tout ça pour vous dire que je dérange, en fait. Je dérange beaucoup de monde. Ils ont déjà essayé d'empoisonner mon chien. Ils ont saboté ma voiture. Et on m'a dit qu'il y avait un contrat sur ma tête.
Sacré rebondissement. Mais est-ce qu'ils ne se poussent pas un peu du col, les colos, là ? Enfin, ne tue pas quelqu'un pour permettre à un festival de rester au bord d'un lac ? Je me demande si on n'a pas affaire à un mytho. Un mangeur de pain complet qui se prend pour le centre du monde. Les parents Dietrich, évidemment, informent la police de cette nouvelle piste. Et dans la tête des flics, ça fait tilt tout de suite. Car depuis le début de cette enquête, ils traînent un témoignage dont ils ne savent pas trop quoi faire. Une femme qui, le soir du 4 juillet vers 10h30, a vu se garer près du Bois Joli une voiture avec 4 types à bord. Elle a noté le numéro de leur plaque. Les flics, à l'époque, bien sûr, ont remonté la piste. Et la voiture était celle d'un employé du service des eaux de Belfort. Alors à l'époque, ils ont laissé tomber, mais là, ça devient intéressant. Un employé du service des eaux de Belfort qui veut dégommer un écologiste et qui se trompe de cible. Waouh ! Je suis au bord de présenter mes excuses aux mangeurs de pain complet.
Et puis non, finalement, je vais les remettre dans ma culotte, mes excuses. Et vous savez pourquoi? Parce que cette piste ne mène à rien. Cette histoire de sosie était bien tentante, mais elle fait flop. Bon, ben, retour à la case départ. Nombre de pistes? 0. Chance que le dossier soit classé sans suite? 100%. Après 7 ans d'enquête en 2001, le juge d'instruction clôt le dossier. Direction l'étagère des cold cases. La famille Furax. Le frère de Stéphane crée une association. Il récolte des fonds. Il embauche des détectives. Et tout ça en pure perte. Et puis, en 2008, 14 ans après le crime, un nouveau procureur de la République arrive à Belfort. Et il ressort le dossier qui prend la poussière. Et il le lit. Et il fait venir les parents Dietrich.
Je pense que, au regard des nombreux progrès réalisés par la police scientifique et technique, il serait opportun de relancer les investigations. J'ai bon espoir que nous puissions avancer.
Un héros, ce procureur. D'autant qu'il a lu le dossier pendant ses vacances. Et 6 ans plus tard, en 2014, se produit un truc absolument inattendu, qui n'a rien à voir avec l'héroïsme du procureur, rien. Un homme se présente de lui-même à la gendarmerie de Belfort.
Bonjour. Voilà, je viens au sujet de ce meurtre qui a été commis il y a longtemps, en 94, je crois. Oui. Et il m'est revenu un truc qui remonte à cette époque. Moi, en 94, j'étais collégien. Eh ben, figurez-vous qu'un pion de mon collège est venu à l'époque me proposer de tuer quelqu'un pour 10 000 francs.
Un pion, vous dites? Un surveillant?
Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu un documentaire à la télé sur l'affaire là de la mort du jeune Dietrich. Et il était dedans.
Il était dedans? Et vous vous souvenez de son nom?
Pas de son nom. Mais de son prénom, oui. Il s'appelait Christophe.
Christophe? Comme le meilleur ami de Stéphane Dietrich? Comme celui avec lequel il avait rendez-vous ce soir-là? Celui qui a prétendu l'avoir déposé à la fête foraine? Parce que dans ce dossier, il n'y a pas d'autre Christophe. Retour donc du meilleur pote en garde à vue, 20 ans après. Il a maintenant 45 ans, et il sort la même histoire qu'autrefois. Il l'a attendu devant chez lui, il l'a amené retirer de l'argent, et il l'a laissé à la fête foraine. Et là, les flics ont l'idée de le confronter à son ancien élève au collège.
Bien, monsieur. Est-ce que vous reconnaissez ce jeune homme? Réfléchissez bien. Vous l'avez connu il y a quelques années.
Je vous ai connu, moi? Vous me dites rien du tout.
Et vous, jeune homme? Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur?
Bah oui, oui. C'était mon pion. Et c'est lui qui m'a proposé de tuer pour de l'argent, pour 10 000 francs, en 94.
À partir de là, Christophe Blin, il est temps que je vous donne son nom, devient blanc comme un linge, et il refuse de répondre à toutes les questions. Il se ferme comme une huître.
Monsieur Blin, maintenant, votre garde à vue devient décisive. Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est maintenant qu'il faut le faire.
En face, Christophe Blin fond en larmes. Et puis...
Oui, c'est moi qui ai tué Stéphane. Au bois joli. C'est moi qui l'ai fait. Avec un couteau que je venais d'acheter.
Combien de coups de couteau?
Je sais plus.
Et pourquoi vous l'avez tué?
Stéphane, il voulait que je lui fasse encore des trucs sexuels, et moi je voulais pas le faire.
Des trucs sexuels, mais encore?
Eh ben, ce soir-là, il m'a dit une fois de plus que je l'excitais, et il a voulu que je le branle. Et moi, j'ai pas voulu, j'en avais marre de le branler, ça faisait des années que ça durait. J'en pouvais plus.
Et pourtant, vous êtes allé avec lui jusqu'au Beaujolais.
Oui. Et en plus, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, mais j'ai pas supporté, je l'ai tué.
Quel rebondissement! 20 ans après. Dans la foulée, Christophe Blain est mis en examen pour assassinat et il est écroué. Quand ils apprennent ça, les parents Dietrich ne l'acceptent pas. Ils sont certains que leur fils Stéphane n'était pas homosexuel, comme si c'était plus important que le reste, que la vérité. Et maintenant, rendez-vous devant les assises. Le procès de Christophe Blain s'ouvre le 14 janvier 2019, devant la cour d'assises de Vesoul. Et dans un décor particulier, le tribunal est en travaux, on a installé la cour d'assises au parc des expositions. Et c'est un homme de 50 ans qui s'assoit dans le box. Il en avait 25 au moment des faits. Et en face de lui, il y a tout le clan Dietrich, qui ne peut pas, qui ne veut pas croire au mobile sexuel de cette affaire. Ils maintiennent que c'est une invention, que Stéphane n'était pas homosexuel. Et aujourd'hui, dans cette drôle de cour d'assises, ils ne lâchent pas Christophe Blain des yeux, alors que lui ne leur jette aucun regard. Et il maintient son scénario.
Il m'a harcelé. C'était un pervers, un manipulateur. Il en demandait toujours plus. Sur le plan sexuel. Et pour moi, c'était un calvaire. Le tuer, c'était le seul moyen de lui échapper.
Au terme de 5 jours de débat, Christophe Blain est condamné à 20 années de réclusion criminelle pour assassinat, la cour ayant considéré qu'il avait tué avec préméditation. Et Christophe Blain n'a pas fait appel.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.